Ta grâce, Seigneur, se répand dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Bienvenue sur Présence en ce début de semaine avec toutes vos émissions. Comme d'habitude, nous allons retrouver dans 10 minutes l'interview avec Isabelle Honnel et avec Olivier de Saint-Martin. Le sujet du jour est sur le texte du pape Fratelli Tutti. Dans 20 minutes, vous aurez votre sélection télé en ce début de semaine dans la deuxième partie de l'heure. Le tour des diocèses et nous partons à Lourdes. En fin d'heure, votre chronique sur la santé avec les oubliés du Covid. Mais juste avant ces belles émissions, vos titres avec Luc Vidal-Giro en Occitanie.
Face aux difficultés rencontrées par les établissements scolaires depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, Carole Delga, présidente d'Occitanie, demande au ministre de l'Éducation de mettre en place dès la semaine prochaine au moins une demi-journée de fermeture des établissements. Celle-ci permettrait l'évaluation et la réorganisation de l'accueil dans les lycées. Ce protocole, justement, a semble-t-il du mal à passer chez certains enseignants du primaire et du secondaire. Une large intersyndicale appelle les enseignants à la grève demain, mardi 10 novembre. Crise sanitaire toujours, les organisateurs du pèlerinage militaire international qui a lieu tous les ans à Lourdes viennent d'annoncer l'annulation de la prochaine édition qui devait se tenir en mai prochain. La 62e édition de ce rendez-vous annuel des militaires de plusieurs pays est reportée en 2022. L'Occitanie est la première région thermale de France. Le secteur s'attend à une chute de 70% de son activité cette année. Déjà fragilisée par le premier confinement, les stations ont dû fermer leurs portes le vendredi 30 octobre. La ministre des Sports était en déplacement à Pau ce week-end. Roxana Maracineanu a rappelé que 110 millions d'euros de soutien vont être apportés à tous les sports collectifs. Il y aura une répartition faite entre les sports en tenant compte de leur dépendance à la billetterie et de leur situation financière. Antoine Dupont, le demi-mêlé de Toulouse et du 15 de France, natif de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées, a été élu meilleur joueur du tournoi des Six Nations. Âgé de 23 ans et déjà 26 sélections au compteur, Antoine Dupont est le premier Français à recevoir cette distinction depuis sa création en 2004. Et puis en football, en Ligue 2, Rodez, battu chez lui en Aveyron par Ajaccio 1-0. Le TFC s'est également incliné 5-4 à Toulouse, battu par Valenciennes. Au classement, le TFC est 9e, Rodez 18e.
Merci Luc, on vous retrouve en fin d'heure pour un autre point sur l'actualité en Occitanie.
La météo.
Pour cet après-midi, quelques éclaircies, 18 degrés en moyenne. Demain matin, des averses dans le Lot et dans la Haute-Garonne où vous aurez 12 degrés. Partout ailleurs, un temps très agréable. Là aussi, il fera frais à 10 degrés pour Rodez ainsi que 13 pour Auch. L'après-midi, il peut avoir de rares gouttes à l'entrée du péage de Cahors-Nord. Pour les autres départements, des rayons de soleil, le mercure montera jusqu'à 16 degrés près du centre commercial à La Bège, 15 pour Tarbes et 13 près de l'antenne de Radio Présence à Rodez. Isabelle, vous examinez l'encyclique Fratelli Tutti avec votre invité.
Oui, un peu plus d'un mois est passé depuis que le pape nous a offert la troisième encyclique de son pontificat. Elle s'intitule Fratelli Tutti et porte sur la fraternité humaine. Un mois est passé, des événements dramatiques se sont produits. Alors quelle résonance donne-t-il à ce texte? On voit ça avec vous, frère Olivier de Saint-Martin. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes le prieur de la province dominicaine de Toulouse. Nous avons 14 minutes ensemble pour aborder un texte finalement assez long que je ne saurais trop vous conseiller à vous qui nous écoutez de vous procurer. Alors, sur ce texte, il y a eu beaucoup de commentaires sur ses accents politiques, parfois jugés très bisounours par certains, un ton jugé abrupt, avec des exemples qui peuvent être très prosaïques. Quelle a été votre première réaction à vous, frère, à la lecture et à la réception de ce texte?
Bah écoutez, justement, je trouve que c'est bien qu'on prenne un mois parce que les premières réactions ne sont pas toujours les bonnes. Vous l'avez dit, il y en a certains qui ont trouvé que c'était bisounours, d'autres qui, au contraire, ont été frappés par le caractère abrupt. Il y a vraiment de tout. Moi, je crois que la première lecture, pour moi, j'ai été heureux de voir la parabole du bon samaritain. Après, j'ai trouvé le texte est long, à peu près 200 pages quand même, enfin c'est long. Et puis, c'est vrai que c'était pas une encyclique comme on a tellement l'habitude.
Pourquoi?
Puisque, D'habitude, dans une encyclique, on a beaucoup de références très théologiques, de références à la Bible. C'est doctrinal, c'est-à-dire que c'est souvent quelque chose qui s'adresse d'abord aux évêques, puis aux prêtres et au peuple chrétien. Mais là, on a plutôt l'impression, et je crois que d'ailleurs c'est le genre, on est plutôt dans une longue et belle, profonde méditation. Alors, de fait, je suis revenu, après l'avoir lu, à qui il s'adressait. C'est toujours très important de regarder à qui un pape s'adresse, à qui est adressé le texte. Ainsi, en 93, lorsque Jean-Paul II avait écrit « Veritatis Splendor », c'était pour les évêques. Benoît XVI, « Caritas in Veritate », l'avait écrit pour les évêques, les prêtres, les personnes consacrées, les fidèles laïcs, les hommes de bonne volonté. À Maurice Laetitia, c'était aussi pour les couples mariés, évidemment. Et là, cette encyclique, en fait, elle n'a pas d'adresse. Elle est envoyée, elle est écrite pour l'ensemble des hommes de bonne volonté. Il n'y a pas de hiérarchie pour les évêques, les prêtres, les diacres, etc. Alors, c'est logique d'ailleurs, hein, si le titre est Fratelli Tutti, tous frères, une reprise de ce que disait François d'Assise, évidemment, c'est assez logique qu'il n'y ait pas de hiérarchie, mais elle est adressée vraiment à tout le monde, et c'est aussi sans doute ce qui explique son genre.
Et oui, alors on vous entend étouffer, frère, faites attention à la manière dont vous tenez votre micro. Cette lettre n'a pas d'adresse, nous dites-vous. Elle s'adresse en fait à toutes les personnes de bonne volonté, c'est ce que dit le pape François. On entend donc qu'elle ne s'adresse même pas aux seuls chrétiens, c'est ça?
Non, tout à fait. Alors, donc ça c'est sans doute quelque chose qui explique son genre littéraire. Cette méditation, le pape dit le monde auquel il rêve. Et puis, c'est un texte, vous l'avez dit au départ, qui est plus difficile qu'il n'y paraît. Mm-hmm. Puisque le pape, il mêle des considérations qui relèvent des principes à des propositions qui sont hyper concrètes et qui appartiennent à la fois au jugement prudent d'un homme qui a une responsabilité du type politique, aussi, pastoral, politique, qui a son propre référentiel, et le pape ne s'en cache pas, hein, il ne prétend pas que les exemples concrets qu'il donne soient des principes non négociables. Il sait qu'il vient d'Argentine, comme Jean-Paul II savait qu'il venait de Pologne et du monde qui était dominé par le communisme, comme Benoît XVI, lui, était un Allemand rompu à la dimension diplomate de la diplomatie internationale. Donc, chacun sait d'où il vient. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette encyclique, je crois, c'est que justement, le pape rappelle des principes non négociables. C'est parfois désagréable de l'entendre, mais c'est quand même bien de le réentendre. Et puis, il va mêler des exemples très concrets. Ce qui est applicable et qui a vraiment toute sa pertinence en Argentine ne l'a peut-être pas en Europe, mais en même temps, en nous rappelant des exemples concrets, le pape nous rappelle que le principe, rappeler uniquement les principes de manière un peu incantatoire, sans verser dans le concret, sans aller dans le concret, est quelque chose qui n'a aucun sens. Hein. C'est ce que rappelle l'apôtre, la foi sans les œuvres ne vaut rien, c'est Saint-Jacques. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
Alors on va rentrer dans le texte lui-même. Quelle est sa force? Qu'est-ce qu'il dit? On a très peu de temps ensemble, hein, frère Olivier de Saint-Martin. On va essayer d'aller à l'essentiel. Que nous dit-il? Qu'est-ce que vous retenez?
Alors on peut dire très rapidement quand même que c'est donc le pape donne l'enjeu dès le départ. C'est une encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale. Alors cela, il va le développer en 8 chapitres. D'abord en proposant une vision, une analyse, une présentation du monde assez sombre. Alors le pape écrit aussi, hein, et c'est une encyclique qui est marquée par la crise épidémique qui frappe le monde entier. Donc c'est aussi dans cet environnement-là qu'il écrit, pour développer, pour montrer les enjeux. Donc, d'abord un constat d'un monde assez sombre, et puis dès le chapitre 2, le pape entame un long commentaire de la parabole du bon samaritain, qui en fait est le fil rouge du reste de l'encyclique, dans lequel il va développer sur les 6 chapitres à venir un monde ouvert, les enjeux, le défi de la migration, une meilleure politique, Le chapitre 6, qui fait vraiment écho au chapitre 3 sur le dialogue et l'amitié sociale. Et ensuite, deux chapitres, l'un pour un parcours pour se retrouver, et puis évidemment les religions au service de la fraternité dans le monde.
Alors justement, hein, pour reprendre effectivement ce constat sombre, on peut citer une phrase du premier chapitre, hein, qui s'appelle d'ailleurs « Les ombres d'un monde fermé ». Le monde contemporain est en grande partie sourd. Parfois, la rapidité du monde moderne, la frénésie, nous empêche de bien écouter l'autre. Et vous l'avez dit, hein, avec cette parabole du bon samaritain qui est comme un fil rouge, qui nous donne la voie à suivre. Et cette voie, c'est celle de la proximité, de la culture, de la rencontre. Vous nous avez parlé d'un thème effectivement central, c'est celui de l'amitié sociale. De quoi il nous parle ?
Alors, l'amitié sociale, c'est une notion qui est assez ancienne, mais dans l'Église, mais qu'on oublie assez régulièrement. Alors, d'abord, je crois que ce qui est très important de rappeler, le pape le dit notamment au numéro 272, il ne s'agit pas d'abord uniquement d'une fraternité, d'une grande fraternité où Dieu n'aurait pas sa place, de quelque chose de très horizontal. Hein, au numéro 272, le pape dit « Nous croyons, nous pensons que sans une ouverture au Père de tous, donc de Dieu, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel de la fraternité, à la fraternité. » Nous sommes convaincus, et c'est seulement avec cette conscience d'être des enfants qui ne sont pas orphelins, que nous pouvons vivre en paix avec les autres. Alors, et il continue. Au fond, on est vraiment dans la question du monde moderne et de la crise que nous vivons avec la Covid. Depuis le péché originel, on peut dire que l'homme se cache à l'homme. Hein. Adam et Ève se font des pagnes, ils ont honte l'un devant l'autre. Et c'est ce qui fera dire à un philosophe du XVIIe siècle, Hobbes, que finalement c'est la peur qui régit les rapports entre les individus et que il y a deux échappatoires. La première échappatoire, c'est la violence, on domine l'autre, on l'écrase. Ou l'autre échappatoire, c'est de demander à l'État de contrôler l'ensemble de tout ce qui se passe, de contrôler un virus, de contrôler l'économie, de tout contrôler. Et on est prêt à donner à l'État plein de choses, y compris nos libertés, pour que ne puisse être balayé par la peur. Le pape propose une autre voie, l'Église, l'Évangile propose une autre voie, qui est celle de la fraternité. Alors, cela s'origine sur des choses assez anciennes, puisqu'on le trouve chez Aristote, chez les philosophes grecs, pour lesquels la cité composée de familles, les familles composaient la cité, c'était la société parfaite. Et dans la famille, ce qui est moteur, ce qui est la base, ce qui est la condition de la vie familiale, c'est une forme d'amitié. On apprend dans la famille à vouloir le bonheur de l'autre, à se préoccuper de l'autre, à prendre soin de l'autre, à s'oublier soi-même, à se mettre au service les uns des autres. Mmh. Et ce type de relation, dit François, doit s'étendre, pas uniquement dans la famille, mais doit s'étendre dans la vie sociale, dans la vie publique. Alors, François le dit, Benoît XVI le rappelait lui-même dans Caritas in Veritate. L'amour est le principe, non seulement de micro-relations, rapports amicaux, familiaux, en petits groupes, mais également des macro-relations, rapports sociaux, économiques et politiques. L'amour est un élément fondamental des relations humaines, même de nature publique. Ça, c'était Benoît XVI.
Et alors, l'amour, la fraternité en principe politique, en politique réaliste, ça se traduit comment ? Ça se construit comment ?
Eh bien, c'est une vision anthropologique. C'est de dire que nous sommes...
Ça paraît très utopique tout de même.
Comment ?
Ça paraît très utopique.
Oui, mais d'ailleurs, le pape parle d'un rêve, mais en même temps, c'est ce que le Christ donne comme enseignement. C'est-à-dire que soit on peut partir anthropologiquement, nous sommes naturellement des êtres de relation. Nous sommes des êtres sociaux et nous devons sortir en permanence de nous-mêmes. C'est notre expérience. Mais nous sommes marqués aussi par l'égoïsme. C'est pour ça que je faisais référence au livre de la Genèse. Le Christ nous invite sans cesse à sortir de nous-mêmes. c'est quelque chose qui est inscrit dans notre cœur, dans notre nature humaine, mais le Christ nous invite à sortir sans cesse de nous-mêmes, à aller à la rencontre de l'autre et à avoir un véritable dialogue. Et le pape citera notamment la violence des réseaux sociaux, où aujourd'hui nous avons un mal peut-être encore plus grand qu'hier, à ne pas avoir un avis sur tout, puisqu'on a une étendue de connaissances, oui, d'accès à l'information qui est incroyable. Chacun de nous réagit avec ce qu'il est, de façon épidermique. C'est encore accentué aujourd'hui par l'anxiété de la crise sanitaire.
Et frère, je vous coupe pour cette aller vers l'autre. Il nous reste 3 minutes, c'est pour ça. Hein. Dans cette aller vers l'autre, il y a aussi aller vers les autres religions. Le pape le dit lui-même, hein, dans son intro. Ce texte a été impulsé par la rencontre avec le grand imam de la mosquée Al-Azhar, hein, Ahmed Al-Tayeb. C'était à Abu Dhabi en 2019. Le grand imam et moi-même avons déclaré fermement que les religions n'incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine, d'hostilité, d'extrémisme, ni n'invite à la violence ou à l'effusion de sang. Au regard des événements récents, frère Olivier de Saint-Martin, on peut quand même être tenté de se dire que c'est une belle utopie, difficile à mettre en œuvre.
Alors, elle est très difficile à mettre en œuvre. D'abord, alors peut-être une petite correction, le pape dit qu'il a été stimulé par sa rencontre.
Mmh, c'est vrai.
On a beaucoup dit qu'il a été inspiré. En fait, non, il dit qu'il a été stimulé par sa rencontre avec l'imam. Alors, je crois qu'effectivement, et l'actualité le montre bien, que de crimes on est capable de commettre au nom de Dieu, au nom de la religion. Mmh. Mais ce n'est pas... Donc, il faut combattre le mal. Concernant ce mal-là, il faut le combattre, il faut le nommer, il faut détester le mal, il faut le combattre. Mais non pas celui qui a commis le mal. On doit nommer le mal et le combattre, mais il y a les personnes, et là, l'évangile est extrêmement clair. Jésus nous dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Et la manière dont Dieu aime le monde, quoi que nous puissions faire, c'est toujours en nous proposant le salut. C'est en nous demandant la conversion, mais en nous donnant les moyens de la conversion. Il a envoyé son Fils pour mourir, alors, dit saint Paul, la preuve que Dieu nous aime, il a donné sa vie pour nous alors que nous étions des criminels. Donc, alors vous me direz, nous ne sommes pas des criminels. Oui, mais combien d'indifférence, combien de discours incantatoires contre lesquels justement le pape lutte dans cette encyclique, qui ne se traduisent pas dans les faits. Et cela aussi conduit à des morts. Et Dieu continue envers et contre tout. Et Jésus nous dit, soyez parfaits comme lui. Et puis il nous rappelle, priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis. Je dois donc pardonner sans mesure. Alors oui, c'est pas facile. Oui, mais c'est la voie que le Christ a vécue, c'est la voie que Dieu a prise. Et quand Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il nous invite à prendre exactement ce chemin. Et je crois que là, c'est la vérité nue de l'Évangile.
Merci beaucoup, frère Olivier de Saint-Martin. Je vous invite, vous qui nous écoutez, à vous plonger dans ce texte beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. Fratelli tutti. Merci beaucoup.
Merci, Isabelle.
Toujours sur votre radio chrétienne, dans 3 minutes, vous allez tout savoir de ce qu'il y a ce soir à la télé avec De l'amour dans l'air. Pour passer un bon moment, il nous faut presque rien. La radio, le soleil qui brille en Occitanie et de la bonne musique avec Francis Cabrel. Bon appétit, il est midi 18.
Et voilà tout ce que je sais faire. Du vent dans des coffres en bambou. Des pans de ciel pour mettre à tes paupières. Et d'autres pour pendre à ton cou. C'est rien que du ciel ordinaire. Du bleu comme on en voit partout. Mais j'y ai mis tout mon savoir-faire et toute notre histoire en dessous. Tu vois, c'est presque rien. c'est tellement peu. C'est comme du verre, c'est à peine mieux. Tu vois, c'est presque rien. C'est comme un rêve, comme un jeu. Des pensées prises dans des perles d'eau claire. T'envoies des journées entières, des chats posés sur les genoux, des murs couverts de fleurs que tu préfères, et de la lumière surtout. Rien que des musiques légères, une source entre deux cailloux, du linge blanc sur tes années de guerre, c'est tout ce que je sais faire, c'est tout. Tu vois, c'est presque rien. C'est tellement peu. C'est comme du verre, c'est à peine mieux. Tu vois, c'est presque rien. C'est comme un rêve, comme un jeu. Des pensées prises dans des perles d'eau.
Manuel Hernandez, quelle sélection télé vous avez pour ce soir pour bien commencer ce début de semaine ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Florian. Ce soir, c'est l'amour qui prime.
Et c'est toujours mieux avec un peu d'amour.
Ça, c'est bien vrai. C'est sur M6 ce soir à 21h que revient L'amour est dans le pré. Dans ce 9e épisode, l'aventure amoureuse de nos agriculteurs franchit un cap. Après les premiers instants de découverte et d'observation, le moment est venu pour nos célibataires de faire leur choix et de l'assumer. De telles décisions vont susciter d'immenses joies, mais aussi, et forcément, de grandes déceptions. Aussi, dans cet épisode, et pour la première fois dans L'amour et dans le pré, une nouvelle chance s'offre à un agriculteur avec une lettre de toute dernière minute. Florian, quelle est la chose la plus folle que vous ayez jamais louée ?
Ah, un vélo à la plage, parce que c'est dur de pédaler dans le sable, tout simplement.
Eh bien, Benoît Poulvord, lui, se paye le luxe de se louer une famille ce soir sur France 3. À 21h, Paul-André est riche, seul et dépressif. À la télé, il est troublé par une émission sur Violette, une jeune femme qui a dû voler pour nourrir ses enfants. Il envoie donc son majordome la chercher et lui propose un marché. Il éponge ses dettes, si elle le prend dans sa famille, elle accepte à condition qu'il fasse croire qu'ils sont en couple. Avec les deux enfants de Violette, la cohabitation s'annonce difficile. Vous aimez bien manger, Florian ?
Ah bien sûr, nous sommes à Cahors, le foie gras, les truffes, les cèpes et toutes les bonnes choses du Lot.
Ah, comme je vous rejoins sur ce point, mais ce soir sur France 4, à 21h, on vous raconte comment consommer autrement. On vous raconte, c'est le nom de l'émission. Trois reportages illustrent le thème « Consommer autrement, c'est possible ». Le marché de l'occasion explose, 60% des Français disent avoir acheté des produits de seconde main dans les 12 derniers mois. Sylvia, mère au foyer, et Cédric, ingénieur, ont tout plaqué pour s'installer en Ariège. Ils sont devenus minimalistes et ont décidé de vivre avec le strict nécessaire. Comment préserver la planète alors que nos modes de vie modernes nous incitent à consommer toujours plus ? Ce sont les questions qu'ils se sont posées et ils vous donnent leur astuce ce soir sur France 4. Vous avez fait votre liste de Noël, Florian ?
Ah oui, Noël arrive à grands pas d'ailleurs.
Oh que oui, j'ai même fini mon calendrier de l'Avent.
Ah bon, mais vous êtes pas un petit peu en avance, Emmanuel Hernandez ? Et très gourmand, hein,
ah, ça, c'est noter. Ça c'est bien vrai, mais oui, mais c'est toujours Noël pour moi et vous le savez très bien, au pays de Noël, c'est ce soir sur Gulli à 21h. Gulli hérite d'une immense propriété entièrement dédiée à Noël et créée des années auparavant par sa grand-mère. Sur place, elle fait la connaissance de Tucker, un jeune avocat chargé de la succession. La jeune femme souhaite vendre uniquement à quelqu'un qui respectera l'esprit de ce bel endroit. Elle pense avoir trouvé un acheteur en la personne de Mason Richards avant de découvrir que ce dernier a l'intention de diviser la propriété en lots. Il est méchant ce Richards. C'était ma sélection télé du soir. Je vous souhaite un très bon début de semaine à toutes et à tous.
Et un bon début de semaine, Emmanuel Hernandez. Merci et à demain, même heure.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
L'essentiel de l'actualité, c'est avec Luc Vidal-Giraud dans l'Occitanie en ce lundi 9 novembre.
Bonjour à tous. Face aux difficultés rencontrées par les établissements scolaires depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, Carole Delga, la présidente d'Occitanie, demande au ministre de l'Éducation de mettre en place dès la semaine prochaine au moins une demi-journée de fermeture des établissements. Celle-ci permettrait l'évaluation et la réorganisation de l'accueil dans les lycées. Ce temps de fermeture est d'autant plus nécessaire, estime Carole Delga, que Jean-Michel Blanquer vient de laisser au chef d'établissement la responsabilité d'assurer la continuité pédagogique. Pour la présidente de région, le nouveau protocole sanitaire applicable au 2 novembre a été diffusé sans concertation avec les collectivités locales et sans laisser le temps aux communautés éducatives d'adapter l'organisation des établissements et le format des cours. Carole Delga fait état de nombreuses remontées de professeurs, de personnel, de parents d'élèves et de lycéens qui lui parviennent témoignant de crainte sur l'application de ce protocole. Alors justement, ce protocole a semble-t-il du mal à passer chez certains enseignants du primaire et du secondaire. Une large intersyndicale appelle les enseignants à la grève demain, mardi 10 novembre. Sont notamment pointés du doigt la difficulté pour les équipes pédagogiques et les personnels de l'éducation à respecter le bon protocole et ses diverses versions, notamment le masque obligatoire des 6 ans ou encore la gestion de l'heure de réfectoire. Les derniers chiffres publiés par l'Académie de Toulouse sur les cas positifs au Covid-19 sont moindres que lors de la dernière semaine de cours avant la Toussaint. 185 cas d'élèves positifs au coronavirus et 56 personnels. Aucune classe ni établissement ne sont pour le moment fermés. Autre protestation, celle qui s'est tenue samedi à Toulouse, où à l'appel de plusieurs organisations, dont Sud Santé, la CGT ou encore le NPA, près de 5000 personnes ont manifesté pour demander plus de moyens pour la santé et dénoncer, je cite, des mesures liberticides inutiles. Crise sanitaire toujours, les organisateurs du pèlerinage militaire international qui a lieu tous les ans à Lourdes viennent d'annoncer l'annulation de la prochaine édition qui devait se tenir en mai prochain. La 62e édition de ce rendez-vous annuel des militaires de plusieurs pays est reportée en 2022. Le PMI n'est pas le premier pèlerinage important à être annulé en 2021. Déjà, le FRAT, un pèlerinage qui rassemble d'ordinaire environ 10 000 jeunes de la région parisienne dans la cité mariale, a également annulé sa venue en février prochain. L'Occitanie est la première région thermale de France. Le secteur s'attend à une chute de 70% de son activité cette année. Déjà fragilisé par le premier confinement, les stations ont dû refermer leurs portes vendredi 30 octobre dernier. Le président de la Fédération thermale d'Occitanie, qui compte 29 stations, dont 11 sous gestion publique ou parapublique, a rappelé que les exploitants ont mis en place une charte sanitaire validée par les services de l'État pour pouvoir rouvrir fin juin ou début juillet dernier et qu'aucun cluster ne s'est formé dans les stations. Pour autant, avec ce deuxième confinement, c'est fini pour l'année 2020. Les stations ne rouvriront pas avant l'année prochaine. Un observatoire au niveau national sera bientôt mis en place pour évaluer le poids économique précis de la filière. En Occitanie, ces dernières années, ce sont environ 200 000 curistes qui fréquentent chaque année les stations régionales. La ministre des Sports était en déplacement à Pau ce week-end. Roxana Maracineanu a notamment évoqué le sort du sport, qu'il soit professionnel ou amateur, un secteur largement fragilisé, soit par des matchs disputés sans public, soit par les suspensions des compétitions. Elle a rappelé que 110 millions d'euros de soutien vont être apportés à tous les sports collectifs. Il y aura une répartition faite entre les sports en tenant compte de leur dépendance à la billetterie et de leur situation financière. La ministre a indiqué que les derniers arbitrages sont en cours au niveau de la Commission européenne pour avoir l'autorisation de distribuer ces fonds, mais ils sont d'ores et déjà actés avec le ministère de l'Économie. Parallèlement, une réflexion est engagée sur l'exonération des charges patronales sur les salaires. Un bigourdan sur le toit de l'Europe. Antoine Dupont, le demi de mêlée de Toulouse et du 15 de France, gymnaste natif de Lannemezan a été élu meilleur joueur du tournoi Destination de rugby. Âgé de 23 ans et déjà 26 sélections au compteur, Antoine Dupont est le premier Français à recevoir cette distinction depuis sa création en 2004. Rugby toujours, on jouait pour le compte du top 14. Ce week-end, Toulouse et Castres ont fait match nul 16-16. Le Racing 92 a battu Pau 24-22. Et puis en foot, en Ligue 2, Rodez a été battu chez lui en Aveyron par Ajaccio 1-0. Le TFC s'est également incliné 5-4 à Toulouse, battu par Valenciennes. Au classement, le TFC est 9e, Rodez 18e.
Merci Luc, on vous retrouve en fin d'heure pour un autre point sur l'actualité de notre région.
La météo.
Pour cet après-midi, quelques éclaircies, 18 degrés en moyenne. Demain matin, des averses dans le Lot et dans la Haute-Garonne où vous aurez 12 degrés. Partout ailleurs, un temps très agréable. Là aussi, il fera frais à 10 degrés pour Rodez ainsi que 13 pour Auch. L'après-midi, il peut avoir de rares gouttes à l'entrée du péage de Cahors Nord. Pour les autres départements, des rayons de soleil, le mercure montera jusqu'à 16 degrés près du centre commercial à La Bège, 15 pour Tarbes et 13 près de l'antenne de Radio Présence à Rodez. Même avec le confinement, nous arrivons à partir et à voyager dans l'Occitanie grâce à Isabelle Honnel. Nous allons où aujourd'hui, Isabelle, dans le tour des diocèses?
Eh bien, direction le sanctuaire de Lourdes ce matin. On y retrouve tout de suite Mathias Terrier, qui est le directeur de la communication du sanctuaire. Bonjour Mathias.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
Alors, quelles sont les nouvelles de Lourdes? Qu'est-ce qu'on note sur nos agendas concernant le sanctuaire, Mathias?
Alors, depuis le 2 novembre exactement, la prière continue à redémarrer à la grotte. Bon, étant donné que la grotte n'est plus accessible au public, il y a simplement la basilique du Rosaire qui reste accessible au public pour des personnes qui habitent en proximité du sanctuaire. Eh bien, la prière continue portée par quelques 30 chapelains. Vous savez, cette communauté internationale composée de prêtres qui fait vivre spirituellement avec, bien sûr, toute la communauté de croyants, ce sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, et bien cette communauté de chapelains propose tous les jours, du matin au soir, la prière continue à la grotte dans différentes langues, et cela est retransmis pour partie sur des télévisions françaises et étrangères, également sur le web, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment le quotidien de la vie du sanctuaire de Lourdes. Et puis, il y a un autre événement assez important qui est survenu lors de la conférence des évêques de France qui a eu lieu, vous savez, par des moyens de visioconférence la semaine dernière, alors bien même sûr qu'elle devait avoir lieu à Lourdes. Eh bien, on a parlé du sanctuaire, on a parlé du statut du sanctuaire, et en particulier bien des sûr nouveaux statuts du sanctuaire de Lourdes. Vous savez que le sanctuaire a une dimension à la fois locale, hein, c'est indéniable, on la vit encore plus fort en ce moment, mais nationale et internationale. Et le pape François, en nommant en juin 2009 un délégué apostolique en la personne de Mgr Hérouard, qui était l'évêque auxiliaire de Lille et qui s'occupe également du sanctuaire depuis un an et demi, eh bien, il a souhaité, le pape, qu'on donne un statut clair à ce sanctuaire de Lourdes. Et c'est le statut national qui a été choisi.
Et qu'est-ce que ça va changer?
Dimension internationale. Alors, ça change concrètement qu'il y aura un conseil d'orientation des évêques qui sera nommé par la Conférence des évêques de France, qui accompagnera l'évêque de Tarbes et Lourdes dans, bien sûr, les grandes orientations du sanctuaire, mais pas forcément dans le quotidien de la vie du sanctuaire. C'est toujours l'évêque de Tarbes et Lourdes et son recteur qui seront chargés de porter les orientations pastorales du sanctuaire, mais il y aura ce conseil d'orientation composé d'évêques. Et puis également, le recteur du sanctuaire de Lourdes, dorénavant, sera proposé par l'évêque de Tarbes et Lourdes et nommé officiellement par la Conférence des évêques de France. Voilà deux petits changements, entre guillemets, mais qui disent combien ce sanctuaire est non seulement cher au cœur des Bigourdans, puisque Bernadette était bigourdane et que la Vierge est apparue dans cette terre de Bigorre, mais également ce sanctuaire est cher au cœur de tous les évêques de France, des diocèses, et puis sa dimension internationale fait qu'il rayonne bien au-delà de nos frontières. Voilà en quelques mots ce qu'il en est de ce nouveau statut du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Eh bien, merci beaucoup Mathias, on vous sent passionné évidemment dès lors que vous nous parlez du sanctuaire et de Lourdes. Je vous remercie pour ces informations précieuses et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Portez-vous bien d'ici là Mathias, au revoir.
Merci, au revoir.
La chronique santé avec Gaëtan Casanova.
Bonjour à tous. Cette semaine, je veux parler avec vous de sujets essentiels, mais malheureusement trop peu évoqués. Je veux parler de la question des déprogrammations des soins à l'hôpital et en ville. Malheureusement, la crise du Covid-19 a obligé les hôpitaux à limiter la programmation des actes chirurgicaux ainsi que des soins habituels. C'est alors qu'il a fallu hiérarchiser. Les pathologies jugées non essentielles, comme les pathologies douloureuses, ont donc été très sévèrement négligées. Beaucoup de patients qui bénéficiaient de kinésithérapie, par exemple, ont été obligés de diminuer la fréquence de leurs consultations, voire de les arrêter durant la première période de l'épidémie. Parallèlement à cela, toute l'activité de dépistage des cancers, par exemple, a été très nettement diminuée. Il y a une semaine, Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, annonçait le chiffre inquiétant d'environ 30 000 cancers qui n'ont pas été dépistés depuis le début de l'épidémie. L'activité chirurgicale aussi a diminué, y compris l'activité de chirurgie cancérologique, puisque la Société française de chirurgie digestive annonçait il y a peu une diminution d'environ 40% des chirurgies pour cancer du côlon. À cela s'ajoute donc une inquiétude importante de la part des patients déjà confrontés à de lourdes maladies. Les enjeux de cette nouvelle vague épidémique sont plus importants encore que ceux de la première. L'épidémie semble durer. Il ne va pas falloir survivre avec l'épidémie, mais vivre avec elle. Il va falloir trouver des modes de lutte contre la propagation du virus, encore une fois, et je le répète, probablement plus focalisés sur les personnes à risque. Il va falloir que les hôpitaux puissent cesser de déprogrammer les soins courants, que les blocs opératoires et les salles de réveil ne se transforment pas tous en unités Covid. Il va falloir que la médecine puisse continuer son travail de toujours. Il va falloir, enfin, donner un signal fort à toutes ces patientes et à tous ces patients qui, depuis quelques mois, se sentent abandonnés. Il va falloir que la médecine puisse rappeler son objet, la lutte contre la souffrance, sous toutes ses formes. Très belle semaine à tous et à vos proches.
J'espère que vous avez commencé ce premier jour de la semaine de bonne humeur. En tout cas, vous allez écouter cette chanson de Thomas avec son titre « L'étincelle ». Je suis persuadé qu'après, vous allez avoir le sourire pendant toute l'après-midi. Dans 4 minutes, votre évangile et commentaires. Nous sommes le lundi 9 novembre. On est bien avec le soleil dans l'Occitanie. Il est actuellement 12h36. Bon appétit.
Tout autour de moi, la vie qui passe et me dépasse. Comprendrai-je le temps de voir la vérité en face? Baigné dans la lumière, je ne peux garder les yeux ouverts. Ta présence en moi et tout s'éclaire. Donne-nous quelques secondes, un instant éternel. Un peu de l'étincelle. Ce soir nous appartient le monde, une joie sans pareil. Profitons un peu de l'étincelle. Mais sans son éveil à la douceur de cet appel. Je vois ton œuvre de merveille. Tout résonne au fond de moi quand l'écho se lève, ébloui par la grandeur éternelle. Hey, tout le tout tout, tout le tout tout, tout le tout tout tout, tout le tout tout, tout le tout tout, tout le tout tout tout. Donnons-nous quelques secondes, un instant éternel. Profitons un peu de l'étincelle. Tout autour de moi, la vie qui passe et me dépasse. comprendrai-je le temps de voir la vérité en face? Laissons-nous quelques secondes, un instant éternel. Profitons un peu de l'étincelle. Tout le tout tout, tout le tout tout, tout le tout tout tout. Tout le tout tout, tout le tout tout, tout le tout tout tout. Donne-nous quelques secondes, un instant éternel. Profitons un peu de l'étincelle. Appartient le monde, une joie sans pareil. Profitons un peu de l'étincelle.
Présence aux portes du Tarn, 97.9. L'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes : Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : L'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent : Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? Jésus répondit : Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent : Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous voilà ramenés au 4e siècle de notre ère. Après les persécutions qui ont décimé les premières communautés chrétiennes, voici que la religion est reconnue par l'empereur et est construite cette cathédrale à Rome qui devint la cathédrale du pape Saint-Jean de Latran. C'est là qu'au cours du 4e et du 5e siècle venaient en masse, pendant la nuit de Pâques, les adultes pour se faire baptiser dans le baptistère à côté de cette cathédrale. Fêter la dédicace de la basilique du Latran, c'est bien sûr faire mémoire de la construction de cette église, mais c'est bien plus nous renvoyer au mystère même de l'église du Christ. La lecture du livre d'Ézéchiel nous replace devant cette vision du prophète qui voit sourdre du temple de Dieu, lieu de la présence de Dieu, ce fleuve qui va assainir les eaux et rendre féconde la terre la plus sèche autour de ce lieu. Comment ne pas penser ainsi aux eaux du baptême ? Comment ne pas penser à l'eau qui va couler du côté du Christ percé par la lance sur le bois de la croix ? Cette eau qui sort du temple est le signe même de la fécondité, de la puissance de Dieu qui a pris possession de ce lieu. la puissance de Dieu est féconde. La puissance de Dieu vivifie tout ce qu'elle rencontre. Nous savons bien, nous, que cette puissance de Dieu est à l'œuvre dans notre monde. Nous savons bien que cette puissance de Dieu est à l'œuvre en notre vie, que si nous laissons Dieu agir, alors nous aussi, nous serons remplis de cette fécondité. Nous savons bien que nous, si nous faisons mémoire et que si nous nous souvenons de ce baptême dans lequel nous avons été plongés, dans cette eau qui nous a fait renaître, passer par la mort avec le Christ pour renaître à la vie avec lui, nous savons bien que si nous laissons agir la puissance de ce baptême, nous sommes configurés au Christ, que comme pour le Christ, les cieux se déchirent et une voix se fait entendre pour nous qui nous dit « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Frères et sœurs, c'est la puissance de cet amour que Dieu met en nous qui nous rend féconds et qui vivifie tout ce que nous pouvons accomplir. Fêter la dédicace du Latran, c'est faire mémoire de ce corps qu'est l'Église. Mais ce corps de l'Église n'est rien d'autre que constitué de tous les baptisés, de tous ceux qui ont été plongés dans la mort et la résurrection du Christ, et donc de tous ceux qui sont appelés à renaître avec lui. Fêter la dédicace du Latran, c'est fêter le mystère de l'Église, et c'est fêter cette joie que nous avons de vivre de cette Église et de la recevoir comme notre mère. Rappelons-nous ce que, au pied de la croix, Marie a reçu comme mission, de recevoir Jean comme son fils. Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Et Marie est la mère de l'Église. Alors ici, dans cette grotte de Lourdes, nous vivons d'une manière toute particulière cette maternité divine, cette maternité de Marie pour l'Église. Mais nous recevons aussi l'Église comme notre mère, comme celle qui nous enfante à la parole de Dieu, comme celle qui, en nous donnant les sacrements, nous permet de vivre de la puissance de Dieu, pour qu'à notre tour, nous soyons témoins de l'amour de Dieu pour son peuple. Cette eau qui vivifie, cette eau du baptême, c'est aussi l'invitation, parce qu'elle nous rappelle la résurrection du Christ, à fonder notre vie sur cette résurrection. Jésus chasse les marchands du temple parce qu'il ne veut pas que sa maison, la maison, ce temple dans lequel Dieu habite, soit souillée et qu'elle devienne autre chose qu'une maison de prière. Mais le vrai temple, nous le savons, c'est le corps du Christ. C'est là que demeure la présence de Dieu. Et ce temple, c'est nous aussi. Nous sommes le temple de Dieu. En nous, Dieu vient faire sa demeure. En nous, le Christ veut demeurer. Frères et sœurs, quelle noblesse, quelle beauté, quelle extraordinaire mission nous recevons que d'être témoins, réceptacles de la présence de Dieu. Le Christ vient demeurer en nous. Il le demeure, bien sûr, dans les sacrements que nous recevons et aujourd'hui dans ces moments difficiles que nous traversons où nous ne pouvons pas communier, le Christ vient demeurer dans sa parole. Il vient demeurer parce que quand deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Alors, frères et sœurs, réjouissons-nous d'avoir l'Église comme notre mère. Réjouissons-nous de la recevoir, cette Église, comme celle qui nous permet de découvrir toujours davantage le Christ. Réjouissons-nous, parce que l'Église est le signe du royaume. Elle nous est donnée pour que nous puissions, nous, là où nous sommes, en être les témoins, en être les artisans, en être ceux qui en sont, ceux qui la bâtissent jour après jour. L'Église, c'est le peuple de Dieu que nous formons. Alors, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu qui se rend présent au milieu de nous. Nous n'avons plus besoin du temple, il a été détruit. Mais le Christ est présent au cœur de son peuple, il est présent au cœur de chacun de nous. Loué soit Dieu. Amen.
À Toulouse, 97.9.
Dans 4 minutes, vous allez avoir les titres de la part de notre journaliste de Lourdes, Luc Vidal-Giron, en Occitanie, juste avant de reprendre le travail ou de partir en pause déjeuner. Pour l'heure, je vous propose deux Patrick. L'un s'appelle Fiori, l'autre Bruel, sur votre radio chrétienne.
Présence à Pau, 96.
Toujours sous présence, c'est l'heure de vos titres en Occitanie avec l'excellent Luc Vidal-Giroy.
Face aux difficultés rencontrées par les établissements scolaires depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, Carole Delga, présidente d'Occitanie, demande au ministre de l'Éducation de mettre en place dès la semaine prochaine au moins une demi-journée de fermeture des établissements. Celle-ci permettrait l'évaluation et la réorganisation de l'accueil dans les lycées. Ce protocole, justement, a semble-t-il du mal à passer chez certains enseignants du primaire et du secondaire. Une large intersyndicale appelle les enseignants à la grève demain, mardi 10 novembre. Crise sanitaire toujours, les organisateurs du pèlerinage militaire humanitaire international qui a lieu tous les ans à Lourdes viennent d'annoncer l'annulation de la prochaine édition qui devait se tenir en mai prochain. La 62e édition de ce rendez-vous annuel des militaires de plusieurs pays est reportée en 2022. L'Occitanie est la première région thermale de France. Le secteur s'attend à une chute de 70% de son activité cette année. Déjà fragilisée par le premier confinement, les stations ont dû fermer leurs portes le vendredi 30 octobre. La ministre des Sports était en déplacement à Pau ce week-end. Roxana Maracineanu a rappelé que 110 millions d'euros de soutien vont être apportés à tous les sports collectifs. Il y aura une répartition faite entre les sports en tenant compte de leur dépendance à la billetterie et de leur situation financière. Antoine Dupont, le demi-mêlé de Toulouse et du 15 de France, natif de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées, a été élu meilleur joueur du tournoi Destination. Âgé de 23 ans et déjà 26 sélections au compteur, Antoine Dupont est le premier Français à recevoir cette distinction depuis sa création en 2004. Et puis en football, en Ligue 2, Rodez, battu chez lui en Aveyron par Ajaccio 1-0. Le TFC s'est également incliné 5-4 à Toulouse, battu par Valenciennes. Au classement, le TFC est 9e, Rodez 18e.
Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Le ciel se couche sur ta peau de louve. Les oies sont rouges, ta mémoire est trouble. On a vu l'Espagne, la rive et les larmes. L'amour a ses failles et ses cœurs nomades. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done.
Don't let
c'est la vie. c'est la vie ou c'est ma vie que j'attendais de toi à moi. Il faut tout recommencer.
C'était Chou Wasabi avec Julien Doré sur Radio Présence en Occitanie. La météo pour cet après-midi, quelques éclaircies, 18 degrés en moyenne. Demain matin, des averses dans le Lot et dans la Haute-Garonne, où vous aurez 12 degrés partout ailleurs. Un temps très agréable. Là aussi, il fera frais, 10 degrés pour Rodez, ainsi que 13 pour Auch l'après-midi. Il peut avoir de rares gouttes à l'entrée du péage de Cahors Nord. Pour les autres départements, des rayons de soleil. Le mercure montera jusqu'à 16 degrés près du centre commercial à La Bège, 15 pour Tarbes et 13 près de l'antenne de Radio Présence à Rodez. Je vous laisse avec Radio Vatican pour votre journal international et je vous dis à demain midi.
Présence dans la cité mariale 96.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Joe Biden, élu président des États-Unis, son adversaire, le président sortant Donald Trump, ne reconnaît toujours